Quatrième instruction.
D'abord, je m'excuse de vous avoir un peu privé hier d'une partie de la conférence en faisant une lecture plus longue que je ne l'avais prévue. Je vais essayer de me rattraper un peu ces deux soirs et d'essayer de commencer à vous donner un petit peu de doctrine. Pas simplement à évoquer, avec une conviction sincère évidemment, l'urgence du précepte de l'amour et de l'amour fraternel. Vous savez que Christ a dit « Le second commandement est semblable au premier. » Le premier étant d'aimer Dieu par-dessus toute chose, de toutes ses forces, de toute son âme, et plus que soi-même. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment expliquer cette identification établie par le Christ entre deux commandements dont l'un porte sur Dieu, sur l'incréé, sur l'infini, et dont l'autre porte sur la créature, étant donné l'insistance du Christ d'abord et de tous les auteurs spirituels ensuite sur l'importance du détachement, l'importance de mettre la créature à sa place. Je vous ai cité la parole de l'Évangile, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, etc., et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Étant donné cela, comment, dans quelle perspective le Christ a-t-il pu identifier ces deux amours, ou ces deux préceptes, ces deux obligations d'aimer? Quelquefois, de nos jours, on en tire des conséquences qui risquent d'être un peu abusives, comme si on pouvait aimer le prochain de n'importe quelle manière, et que on puisse se désintéresser de Dieu, du moment qu'on aime le prochain et de n'importe quelle manière, serais-je tenté d'ajouter, eh bien ça va bien. On est, comme le disait quelqu'un qu'on interrogeait, qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous, et qui a répondu, c'est les autres. Formule qui peut être très profonde, très chrétienne, et qui peut être très catastrophique. Alors, avant de tirer les conséquences de cette identification des deux préceptes, ben, il faut essayer de la comprendre. Et on sera payé de sa peine, car on découvrira des splendeurs. Et on risque de se sentir beaucoup plus près du prochain, quand on aura compris, que si on se dispense de cet effort, et surtout que si on se croit dispensé d'aimer Dieu pour aimer le prochain. Sous prétexte qu'en aimant le prochain, on aime Dieu, vous voyez. Précisément, il me semble que l'identification des deux préceptes s'explique de deux façons, qui d'ailleurs sont tellement solidaires qu'elles peuvent peut-être se ramener à l'unité, mais là, il y a un exercice, il risquerait d'y avoir un exercice dialectique dont je vous ferai, que nous remettrons, si vous voulez, pour les cercthomistes, pour ceux qui y viennent. Premier point, il est impossible d'aimer vraiment les autres si on n'est pas délivré de cette déviation très grave qui est le péché, l'unique péché, celui qui consiste à se prendre pour centre et non pas Dieu pour centre. Bon, on ne peut pas avoir 36 centres, il y en a deux possibles, c'est cela d'ailleurs la parole de saint Augustin que je vous avais remise comme thème de cette retraite, et j'y viens maintenant ce soir, comme vous voyez. Ou bien s'aimer jusqu'au mépris de Dieu, ou aimer Dieu jusqu'au mépris de soi-même. Jusqu'au mépris de soi-même, ça ne veut pas dire qu'on méprise les dons que Dieu nous a faits et la splendeur qui est la nôtre. Au contraire, nous verrons que c'est précisément en aimant Dieu par-dessus toute chose, et seulement à ce moment-là, que l'on peut non seulement aimer les autres, mais s'aimer soi-même. Et s'apprécier soi-même au prix qui est le nôtre et que le Christ évoque quand il dit « Vous valez plus que beaucoup de passereaux ». Donc, non pas se mépriser en ce sens-là, mais se mépriser en ce sens qu'on cesse de s'inquiéter de son bonheur, ou de son plaisir, ou de sa satisfaction, ou de sa gloire, ou de sa grandeur, tout ce que vous voudrez, comme étant la première de nos préoccupations. ça a vraiment, c'est un mouvement de bascule extrêmement douloureux, celui par lequel on cesse de prendre notre propre destin, nous cessons de prendre notre propre destin comme notre premier objet d'intérêt. C'est une aventure énorme, c'est quelque chose de même que c'est une catastrophe énorme d'avoir cessé de prendre Dieu comme premier objet d'intérêt, comme premier objet d'amour. C'est une déflagration non moins considérable de retourner de nouveau la vapeur, n'est-ce pas, et d'en arriver à aimer Dieu jusqu'au mépris de soi-même, alors que, à partir du moment où on se prend pour centre, eh bien, on s'aime jusqu'au mépris de Dieu si besoin est. Alors ça, je vous répète, ce mouvement par lequel nous recherchons peut-être de très belles choses, la culture, l'amitié, la fraternité, Dieu même, mais pour nous, eh bien ça, ce mouvement-là, qui est inscrit dans notre cœur par le péché originel et qui s'y est développé malgré le baptême d'une manière assez lourde à la suite de nos péchés personnels, c'est le péché. Bon, il n'y en a pas 36, c'est celui-là. Refuser de se laisser décentrer, de se laisser arracher un intérêt primordial que nous accordons à notre destin, de façon à s'intéresser d'abord, à vouloir d'abord, à aimer d'abord ce qui fait le plaisir, la joie, le bonheur, la gloire de Dieu. Voilà. Eh bien, je dis que celui qui ne fait pas ça est nécessairement cruel envers les autres et envers soi-même, nécessairement dur envers les autres et envers soi-même. Voilà. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Eh bien, d'abord, je vais vous expliquer que c'est le péché. Alors, ce péché, nous ne le trouvons pas dans notre vie, vous ne l'avez, je l'espère, pas encore rencontré dans votre vie, peut-être à l'état de tentation, j'espère pas plus, sous la forme où il prend des dimensions extrêmes et où on devient très lucide, très conscient qu'en effet, on a bien envie d'aller jusqu'au mépris de Dieu. Peut-être l'avez-vous rencontré, après tout, c'est notre condition humaine à tous que d'être exposé à cette tentation et peut-être à ce péché. Mais là, à ce sujet-là, j'ai rien à vous dire. Si vous avez fait cette expérience, dans une certaine mesure, vous savez déjà ce que je voudrais vous dire. Mais c'est pour le cas où vous ne l'auriez pas faite, ou bien vous l'auriez oubliée. Et alors, vous auriez la tentation contre laquelle je vous mets en garde, alors là. De limiter les dégâts. Voilà. Bon, toujours, nous ne voulons pas être mangés. N'est-ce pas ? Alors, en quoi ça consiste, limiter les dégâts ? C'est ça. Je vais essayer de vous expliquer. Ça consiste à essayer, tout en se prenant pour centre secrètement, de reconnaître aussi largement et sincèrement que possible tous les droits et tout l'empire de Dieu. De lui faire vraiment, enfin, de lui faire une certaine place tout de même, quoi. Et même le plus de place possible. Mais évidemment, pas lui donner toute la place. Ça, évidemment, ça supposerait précisément ce retournement de notre centre de gravité. Vous voyez ? Et c'est précisément ce que nous voulons ne pas être acculés à faire. Et pour ne pas être acculés à faire cela, comme nous ne voulons pas pécher, ni aller jusqu'au mépris de Dieu, alors essayez de donner à Dieu ce que j'appellerais la place d'honneur. Voyez-vous ? N'est-ce pas ? Une place d'honneur, mais plus théorique peut-être que réel, et puis une place d'honneur qui ne soit pas toute la place. Voilà, c'est surtout cela. Et c'est ce qu'on risque de faire pratiquement quand on poursuit ce programme sur lequel tant de chrétiens sont alertés, mettre Dieu dans sa vie. Je me rappelle avoir été amené, je ne sais plus, ah oui, il s'agissait justement d'une récollection de mères de famille qui plongeaient dans la vie du monde, venaient faire une récollection dans une communauté où je faisais des cours, pour essayer de chercher ensemble comment mettre Dieu dans la vie quotidienne. Eh bien, c'est une excellente préoccupation, c'est très louable d'avoir cette envie de mettre Dieu dans sa vie. Mais pourquoi est-ce que ça pose tellement de problèmes ? Pourquoi est-ce que ça paraît tellement difficile ? Pourquoi est-ce qu'on dit, oh, vous savez, mais c'est tout simplement parce que on veut lui donner une bonne place, mais pas toute la place. Alors ça, c'est absolument insoluble. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'engager dans des difficultés inextricables. On essaie de négocier avec Dieu. Et alors Dieu aussi essaie de négocier avec nous. Alors c'est des négociations qui ne marchent pas bien. Parce que chacun des partenaires veut tout. C'est forcé. On veut tout ce qui compte. Négociation interminable engagée par l'homme pour se mettre en règle en gardant quelque chose, si peu que ce soit. Eh bien, il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Et ici, je vous cite Lewis dans Le problème de la souffrance, dont je vous ai déjà peut-être parlé. De même qu'un jeune homme désire recevoir de son père une pension régulière, qu'il puisse considérer comme lui appartenant, et dont il puisse disposer librement. Vous voyez ce conflit quelquefois, n'est-ce pas, lorsque les jeunes arrivent à l'âge intermédiaire entre l'autonomie économique et puis où ils ont déjà acquis leur autonomie morale, enfin, sans avoir peut-être encore l'autonomie économique. Alors là, il y a une certaine période de tension, hein, c'est normal. Et il est juste, dit Lewis, qu'après tout, on demande cela. Ou tout au moins avoir une petite part qui appartienne au jeune homme, parce que son père n'est après tout que son semblable. Voilà. Eh bien, de même, l'homme voulut être à son compte, prendre en main son propre avenir, organiser ses plaisirs et sa sécurité, avoir un meum, c'est-à-dire un mien, quelque chose qui soit mien, vous voyez, sur lequel, bien entendu, il est tout à fait disposé à prélever un certain tribut, vous voyez, raisonnable, pour Dieu, sous forme de temps, d'attention et d'amour, mais qui, tout de même, serait à lui, et non pas à Dieu. Il voulut, comme on dit, posséder son âme. Voilà pourquoi le Christ a dit, bien, celui qui veut posséder son âme la perdra. Et au contraire, celui qui renonce à la posséder la trouvera. Parce que posséder son âme, dit Lewis, ça équivaut à vivre un mensonge. Parce que nos âmes ne sont pas, en fait, notre propriété. Voilà, c'est très simple. Nous ne nous appartenons pas. Donc, nous ne pouvons avoir rien qui nous appartienne totalement, puisque notre être même ne nous appartient pas, d'une manière totale. Il voulut dans l'univers un petit coin, aussi petit que ça. Satan est très capable de dire « je ne suis pas ambitieux ». Je ne demande pas la lune. Je voudrais un petit coin seulement pour pouvoir dire à Dieu ce qui se passe dans ce petit coin, c'est mon affaire. Mais alors mon affaire exclusivement. Je vous abonne tout le reste, mais je voudrais qu'il y ait tout de même une toute petite part, ne serait-ce que de ma vie intérieure, de ma vie la plus secrète, qui soit vraiment à moi. C'est mon affaire et non pas la vôtre. Eh bien, un tel coin n'existe pas. Voilà. Ce qui revient à dire qu'en dehors de l'oblation totale par lequel on se livre corps et âme à Dieu, et surtout par lequel on lui livre notre liberté, car c'est surtout ça qui compte pour nous, eh bien, il n'y a que le péché. Voilà. C'est là où je reconnais que mes paroles peuvent vous paraître un peu secouantes. Enfin, j'ai pris 3 soirs de précaution, relatifs, évidemment. Ce que je suis obligé de vous dire, c'est que cet appel à donner tout, ce n'est même pas l'appel de la grâce. L'appel de la grâce, ce sera encore autre chose. C'est la loi. Ce n'est pas une loi de crainte, c'est une loi d'amour, effectivement. Mais en dehors de cette loi, nous sommes dans le péché. Et Dieu respecte infiniment notre liberté de péché, mais enfin, c'est tout de même une liberté de péché. Dieu ne fait pas le gendarme, il ne nous dit pas, ou s'il nous le dit, c'est pour nous aider, c'est par pitié pour nous. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, père. Alors, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font, on va les menacer un peu grossièrement, comme on fait pour des enfants, n'est-ce pas? Mais si nous savions ce que nous faisons, Dieu n'aurait pas à nous menacer, il nous dirait voilà la vérité. Et il ne ferait aucune pression sur nous. Il nous dirait tu es libre, à toi de choisir. Mais si tu choisis de refuser cette oblation totale à mon amour et à mon être, ben, tu es dans le péché, tu le sais, tu le vois. Alors, à partir du moment où l'homme se prend pour centre, alors c'est ça que je voudrais, à quoi je voudrais en arriver, parce que c'est sur l'amour fraternel surtout que je voudrais vous parler, eh bien, à partir du moment où l'homme se prend pour centre d'une manière plus ou moins secrète, mais terriblement efficace, alors il se passe deux choses absolument parallèles. Par rapport à Dieu, tout effort pour lui offrir la place d'honneur, la première place, Dieu premier servi, est ou hypocrite ou désespéré. C'est forcément l'un ou l'autre. C'est à part. Ou bien on se cache la vérité, ou bien on découvre la vérité, et alors, bien, tout effort, on s'aperçoit que tout effort pour prétendre donner à Dieu la place qu'il mérite est désespéré, puisque du simple fait qu'on s'est pris pour centre, on a usurpé la place de Dieu. Eh bien, de même, tout effort pour accorder au prochain une place égale à la nôtre dans notre cœur, pour l'aimer comme nous nous aimons, c'est-à-dire pour lui rendre justice, car c'est un droit du prochain d'être aimé de cette façon, eh bien, c'est tout effort de ce genre est lui-même hypocrite ou désespéré. Voilà. Et alors, si vous voulez le savoir, je vais vous donner un truc pour vous en rendre compte. Essayez. Essayez d'aimer le prochain. Essayez vraiment, essayez sérieusement. Et alors, vous vous apercevrez que dans la mesure où vous combattez cette tentation de vous prendre comme centre, et vous la combattez de manière efficace, vous y arrivez. Dans la mesure où vous essayez d'arranger les choses, de ne pas vous donner totalement à Dieu et d'aimer quand même réellement le prochain, eh bien vous vous apercevrez que vous aimerez ceux qui vous aiment, vous aimerez ceux qui vous plaisent, vous aimerez ceux qui ne vous plaisent pas en leur donnant des oranges, mais en leur tournant le dos, et en disant, en pensant du mal d'eux, ou moins sinon en en disant. C'est ce qui, d'ailleurs, vous aimerez de cet amour de charité, n'est-ce pas, dont on aime ceux qu'on n'aime pas. Autrement dit, vous découvrez que vous n'aimez pas et que tout effort pour aimer honnêtement le prochain est désespéré dès que vous avez cédé à cet égocentrisme. Et alors, c'est pour cela, c'est pour dénoncer, c'est pour nous décourager, hein, c'est en partie pour nous décourager à l'avance de toutes ces manières d'arranger les choses que le Christ nous présente les conséquences les plus concrètes de l'amour fraternel pris dans toute sa perfection, de manière aussi intransigeante. Quand le Christ dit, vous voulez, je vous demande, moi, d'aimer vos frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on t'a frappé sur la joue droite, tends la joue gauche. Voilà. Tu n'y arrives pas. Eh bien, tu n'y arrives pas parce que tu n'aimes pas Dieu autant et comme il faudrait l'aimer. Tu ne t'es pas démis, tu n'as pas démissionné de la recherche primordiale de ton bien en faveur du bien divin. Tu n'as pas vraiment donné à Dieu toute la place, alors, eh bien, tu ne peux pas tendre la joue gauche. Car celui, la seule raison, voilà ce que je vous demande de comprendre, pour laquelle nous n'arrivons pas à tendre la joue gauche, pour laquelle nous n'arrivons pas à donner notre manteau quand on nous prend la tunique, à ne pas réclamer ce qui nous appartient et qu'on nous enlève, la seule raison, si on... À propos de ce précepte, bien entendu, il n'est pas toujours raisonnable de l'appliquer, mais ce n'est pas la question. Alors là, je vous demande un peu d'honnêteté. Voyez, ce que Dieu nous demande, et c'est ça qu'il faut voir, c'est d'être vraiment prêt à le faire. Alors, si par sagesse on ne le fait pas, alors qu'on a envie de le faire par amour, très bien, très bien, très bien. Mais attention, hein, attention de vérifier que c'est vraiment par sagesse, et malgré une envie dévorante, de tendre la joue gauche, qu'on s'abstient, n'est-ce pas? Et que... à nous de bien vérifier qu'on a vraiment envie de tout donner, de se laisser dépouiller, mais que par sagesse, par prudence, parce qu'on est chargé de famille ou autre, alors on se défend quand même en défendant le bien commun. Très bien, c'est tout à fait d'accord, mais attention, est-ce que le désir vraiment de se laisser prendre tout nous habite? Non. Bon, eh bien, la seule raison pour laquelle nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous nous sommes secrètement choisis pour centre. Car celui qui ne s'est pas pris pour centre y arrivera. Il en aura le désir, il aura tout au moins ce désir, mais efficace, d'aller jusque-là. Mais il se complaira dans l'idée d'aller jusque-là, il aura soif d'aller jusque-là, il gémira peut-être de ne pas y arriver aussi bien qu'il voudrait. Mais c'est un homme qui, justement, respirera le désir d'aimer de cette façon-là. Et ça se sent tout de suite, vous savez. Quand on rencontre ceux dont on sent qu'ils ouvrent leur cœur, ou qu'ils ont envie de l'ouvrir. Et puis ceux qui prêtent leur cœur, qui veulent bien vous donner des choses, mais pas tout. Ça se sent. Bon, alors je tiens à dire aussi, avant d'aller plus loin, ne croyez pas que celui qui aime Dieu plus que lui-même, qui a donné vraiment à Dieu la première place, se désintéresse de son propre bonheur. Oh là là, loin de là. Seulement, il comprend que son bonheur consiste justement à chercher d'abord le bonheur d'un autre, la joie d'un autre, la gloire d'un autre, c'est-à-dire de Dieu. Et il comprend que le désir de son propre bonheur doit s'inscrire à l'intérieur de ce désir plus profond encore, plus important encore, plus dévorant encore, le désir de d'accomplir ce que je pourrais appeler d'accomplir la joie de Dieu, d'être la joie de Dieu, d'être quelque chose, quelque reflet dans lequel Dieu puisse trouver sa joie. Voilà. À partir du moment où on laisse ce désir prendre toute la place en nous, alors on trouve le bonheur. Et on recherche son bonheur, et on recherche le bonheur parce qu'on sent bien que Dieu le désire, bien plus que nous, notre bonheur. Et que c'est justement à ce moment-là qu'il est en sécurité. C'est pas à partir du moment où on cherche le bonheur de Dieu, ce qui équivaut à cette parole magnifique du Christ à Catherine de Sienne, « Pense à moi, je penserai à toi ». Eh bien celui qui a fait ce mouvement de bascule, il sent qu'en effet Dieu pense à lui. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Et il sent que précisément à partir du moment où il abandonne tout à Dieu, il permet à Dieu lui aussi de ne penser qu'à son propre bonheur. Et il a l'impression que Dieu se désintéresse de sa gloire en faveur de son propre bonheur. C'est un jeu d'échange perpétuel d'amour, ce jeu que Thérèse de l'Enfant Jésus a si bien décrit. Bon. Voilà un premier point. C'est la première raison pour laquelle il est impossible, pour qu'il y ait un lien entre l'amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain comme soi-même. Il y en a une deuxième qui est beaucoup plus profonde et plus positive, beaucoup plus intéressante, et que nous avons d'ailleurs présentée tout de suite, à laquelle nous venons de toucher, quand j'ai fait allusion à cet accomplissement de notre propre bonheur que nous trouvons beaucoup plus suave, beaucoup plus aisé, beaucoup plus intense à partir du moment où nous nous intéressons d'abord à celui de Dieu. C'est que le sens de la créature est ce qui lui donne un prix infini. C'est précisément de refléter le bien de Dieu, le bien divin. Surtout la créature intelligente. Elle est capable de refléter le bien divin. Et à partir du moment où elle connaît Dieu, elle le reflète par la connaissance. Et à partir du moment où elle préfère la joie de Dieu à la sienne, eh bien, elle reflète en elle l'amour dont Dieu sait. Et par conséquent, et alors c'est là où ça commence à devenir extraordinaire, à partir du moment où une créature, par cette attitude qu'elle prend d'oblation totale, reflète en elle l'amour dont Dieu sait, Dieu aime un peu cette créature comme il s'aime lui-même. C'est-à-dire que cette créature prend une valeur infinie. Voyez-vous ? Parce qu'elle s'est mise sous le rayonnement du bien divin, la créature découvre à son sujet, si vous voulez, deux vérités complémentaires, dont l'une est la condition de l'autre, c'est comme le revers de la médaille. Et celui qui n'accepte pas le revers ne peut pas bénéficier de la splendeur extraordinaire de l'endroit. Le revers, c'est de reconnaître que nous ne sommes rien par nous-mêmes. Voilà. Que nous n'avons aucun intérêt en nous-mêmes. Alors ça, il faut passer par ce petit trou de l'aiguille, justement, par lequel il est plus difficile aux riches de passer que, justement, Un chat passait par le trou de l'aiguille, la porte étroite. Il faut passer par là pour découvrir l'endroit de la médaille. Alors l'endroit de la médaille, c'est que la créature, dans la mesure où elle a accepté cette vérité qu'elle n'est rien par elle-même, en tant que reflet du bien divin, elle est tout. Elle n'est pas quelque chose, elle est tout. Elle a les dimensions, elle a un prix qui ne peut être mesuré qu'aux dimensions du bien qu'elle reflète, c'est-à-dire un prix infini. Voilà. Et c'est seulement dans cette lumière, dans cette... c'est seulement quand elle a accepté d'être pauvre, que la créature peut découvrir à quel point elle mérite d'être aimée. Et alors nous en arrivons à ce paradoxe. C'est que l'égoïste ou l'idolâtre, celui qui ne veut pas se décentrer en Dieu, s'aime en réalité beaucoup moins, lui-même s'aime, aime sa propre personne beaucoup moins que celui qui renonce à se mettre à la première place. Pourquoi ? Parce que celui qui renonce à se mettre à la première place et qui accepte de se voir dans toute sa pauvreté comme essentiellement relatif à un autre, eh bien, reçoit de ce simple fait, du simple fait qu'il accepte d'être relatif et non pas absolu, ou comme dirait Lewis, d'être un adjectif et non pas un substantif, d'être quelque chose de Dieu et non pas quelque chose en nous-mêmes. À partir du moment où on accepte cela, eh bien, cette relation à Dieu nous donne un prix et une séduction, une splendeur, un charme que nous ne pouvons absolument pas avoir en nous-mêmes. Dans l'absolu. Et c'est pourquoi on peut dire de la créature les choses les plus contradictoires. Que la créature est la plus décevante et la plus odieuse des choses, et que, par ailleurs, si elle se met dans l'ordre, si elle se met dans sa place, elle devient aussi aimable que Dieu lui-même. Voilà le fond d'identification des deux commandements. Voyez jusqu'où ça va. Par conséquent, seul celui qui aime Dieu peut savoir combien lui et le prochain sont aimables, sont dignes d'amour. La quantité d'amour que nous méritons de recevoir et que nous devons donner les uns aux autres, nous ne pouvons le savoir que si on aime Dieu, mais ce qui s'appelle aimer Dieu. Alors les autres prennent à ce moment-là une dimension et on devient réellement capable de faire pour chaque homme, en tous les cas on en a le désir et Dieu nous en donnera la grâce, de faire pour chaque homme ce que on reconnaît juste, équitable et salutaire de faire pour Dieu. Voilà. Alors, je me permets de vous lire un texte pour conclure ce commentaire que j'ai écrit récemment. Le deuxième commandement est semblable au premier, non seulement parce que le premier nous libère de l'égoïsme de la nature centrée sur elle-même et nous donne ainsi la légèreté nécessaire pour ouvrir notre cœur à celui du prochain, mais plus profondément encore parce que l'amour du prochain et de nous-mêmes n'atteint sa plénitude que si nous voyons rejaillir sur le prochain et sur nous-mêmes la splendeur de Dieu aimé par-dessus tout. Voilà, vous comprenez ? À partir du moment où on a réalisé, laissé passer dans notre cœur l'adoration, enfin cet élan de quelqu'un que nous aimons par-dessus tout, alors on s'aperçoit que cet élan, tout le monde en bénéficie, et nous le premier. Et si cet élan n'est pas en nous, alors nous privons les autres de cette folie, je dirais. Vous voyez ? Dieu... L'amour du prochain atteint sa plénitude que si nous voyons rejaillir sur lui la splendeur de Dieu aimé par-dessus tout et faisons ainsi peser sur l'amour du prochain quelque chose de ce par-dessus tout. Voilà. Que nous avons découvert en Dieu. Voilà quelque chose de cette folie. C'est absolu. On voit donc avec quel sérieux et avec quelle profondeur rarement respectée nous devons recevoir la parole du Christ et le second lui est semblable. Semblable parce que c'est en vérité du même amour, dans la même coulée et dans le même éblouissement que nous devons aimer Dieu et le prochain, l'un et l'autre pour Dieu seul, pour le même motif, en vertu de la même séduction. L'appât qui nous attire est le même, et c'est évidemment Dieu. Dire que le second commandement est semblable au premier, c'est dire que le prix de la créature spirituelle est semblable à celui de Dieu. Alors vous voyez la dimension de cette parole, cette suggestion discrète du Christ, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Voilà. Vous voyez de quoi on se prive lorsqu'on ne veut pas mettre Dieu à la première place. Vous voyez de quelle gloire nous privons les hommes. Lorsque nous voulons que les hommes aient de l'intérêt en eux-mêmes et non pas en tant que reflet de Dieu. Car en tant que reflet de Dieu, ils ont un intérêt sans proportion avec celui qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes. Je sais pas, moi c'est comme une feuille d'arbre que vous pouvez examiner dans l'obscurité et puis chercher à voir sa richesse. À partir du moment où vous la mettez dans la transparence du soleil, c'est autre chose. Hein. Bon, ben c'est tout, voilà, c'est ça. Est-ce que nous nous aimons en nous-mêmes ou dans la transparence du soleil? Et ce que le Christ nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres dans la transparence du soleil. Vous me direz peut-être, mais et si les autres ne marchent pas? Eh bien, si les autres ne marchent pas, il en résultera une grande souffrance, parce que les autres sont faits quand même pour cela. Ils sont faits quand même pour cette splendeur, et c'est dans cette splendeur que nous devons les aimer, même s'ils ne marchent pas. Voilà, parce qu'ils en sont radicalement capables, et qu'ils sont vraiment faits pour ça. Alors, s'ils méconnaissent, et s'ils défigurent leur propre splendeur, eh bien, nous devons en garder l'amour dans notre cœur, d'autant plus fort. Et voilà ce que signifie l'amour des ennemis, et non seulement l'amour de nos ennemis, mais l'amour des ennemis de Dieu. Bon. Alors ça, c'est un premier point. Il en résulte un peu ce que je vous ai dit hier soir. Cette splendeur, à son tour, à son revers. C'est que accepter l'invasion dans notre cœur du prochain, c'est accepter l'invasion de Dieu. C'est la même chose. Et alors là, en effet, la spiritualité moderne a raison. Elle a raison à condition justement que cet amour du prochain soit vraiment l'acceptation d'une invasion qui provoquera un bouleversement aussi grand que l'invasion de Dieu, parce que c'est l'invasion de Dieu si c'est une invasion totalitaire. Et c'est ce que nous avons senti hier soir, je pense, en faisant cette lecture du caractère redoutable de l'invasion dans le cœur de ce prêtre de la souffrance du monde. Accepter l'invasion dans notre cœur de toute la détresse et de toute la soif du monde, c'est tout aussi redoutable, et c'est d'ailleurs exactement la même chose que d'accepter l'invasion de Dieu. Et alors là, je suis obligé de mettre en garde, s'il s'en trouvait parmi vous, ça peut arriver, des personnes qui auraient soif de Dieu, soif de la perfection chrétienne, et qui seraient, d'une manière, j'en ai connu, d'une manière très authentique, très dévorante, et qui n'ont jamais accepté de se laisser vraiment bouleverser dans leurs entrailles. Voilà, la clé de tout. Attendez, de se laisser bouleverser dans leurs entrailles par le spectacle de la misère matérielle et encore plus de la misère spirituelle, mais les deux, du monde. Ces personnes n'ont pas accepté de chavirer. Vous comprenez ? Il y a des spectacles qui sont chavirants. Voilà. Eh bien, on ne trouve pas Dieu si on ne se laisse pas chavirer par ces spectacles, quand Dieu nous les présente. Et la grâce passera par cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui devrait normalement se produire pendant la semaine sainte au spectacle de la Passion. Seulement, celui qui se laisse vraiment chavirer par le spectacle de la Passion se laisse aussi chavirer par toute souffrance, physique même, dans le monde. Et celui qui ne se laisse pas chavirer par cette souffrance physique, c'est qui ne se laisse pas chavirer par le spectacle de la Passion. Alors, là, il ne trouvera pas toutes les dimensions de la miséricorde. Nous en venons à la première conférence que je vous ai faite. Comment choisir la miséricorde? Ben, il faut accepter d'être chaviré par la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est chavirant. C'est Albert Fauvat qui m'avait raconté cette histoire du moine, de l'ermite. Ah non, plutôt, c'est une histoire qu'on attribue à saint Antoine dans son désert, je crois. Le grand saint Antoine. Je ne sais pas si c'est historique, ça n'a aucune importance, comme toutes les histoires de saints. C'est la signification qui compte. Et alors, il a eu une vision, et il était inquiet, je suppose, il était justement de ces personnes éprises de Dieu, vous vous en doutez, n'est-ce pas? C'est des pèlerins de l'absolu qui s'en vont, qui quittent le monde pour trouver Dieu dans le désert, et qui sont très inquiets de leur progrès, c'est normal. Y suis-je, n'y suis-je pas? Et Dieu l'avait rassuré, il lui disait, ça va bien, tu es en route, ça va, tu fais des progrès. Mais il y en a un, ben, il est plus avancé que toi. Ah, saint Antoine, tout de suite, l'enthousiasme, la générosité, l'ardeur de celui qui est passionné de Dieu. Où est-il que j'aille le voir, que je lui demande son secret? Dites-le-moi, Seigneur. Eh bien, je vais te le dire, oui. C'est un petit cordonnier qui habite dans la ville. Tu le trouveras là, à telle rue. J'y vais. Alors, il y va. Et puis, il trouve le cordonnier, il lui dit, alors, il paraît que t'es plus avancé que moi. Oh, ça, je sais pas. Oui, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vis? Oh, moi, je fais des chaussures, hein. Oui, mais enfin, je consacre du temps à la prière, je consacre du temps à mes chaussures, je consacre du temps à l'église, c'est tout. Ah ben, je fais trois parts de mes biens, une pour moi, l'autre pour l'église, l'autre pour les pauvres. Oui, 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 mais enfin, moi, j'ai tout donné. C'est tout? Ben, il dit, oui, c'est tout. Je vois pas bien, moi. Oh, certainement, enfin, c'est quand même... J'ai complètement été mal renseigné, enfin. Alors, ben, du petit cordonnier, je vous dirais une chose. Quand il y a des malheureux qui se présentent, je peux pas m'empêcher de... Ça me bouleverse toujours un peu. J'essaie de les accueillir. C'est tout. Vous voyez, c'est tout. Alors à cause de ça, et non pas à cause du... Il ne s'agit pas, c'est pas une affaire matérielle. Ça doit se traduire, ça doit s'incarner par des gestes matériels, bien sûr, n'est-ce pas? Sans quoi ce serait de la rigolade. Mais c'est au-delà des gestes matériels. Et vous savez, les malades, les prisonniers qu'on visite sentent bien si on leur donne des oranges ou si on leur donne notre cœur. Hein? Si on a accepté d'être chaviré, justement, voilà. De perdre pied, d'être bouleversé à jamais, de ne plus pouvoir dormir comme autrefois à cause de ce qu'on a vu. Voilà, vous comprenez? La miséricorde, c'est une lame de fond. C'est parce que Dieu est possédé par cette lame de fond qu'il nous sauve. Mais il dit, on va jouer ça à deux, hein, mon petit. Parce que le salut que je peux t'apporter, mais c'est précisément ma lame de fond, j'ai rien d'autre à t'offrir. Alors une lame de fond, c'est une lame de fond. Hein. On se retrouve après, on ne sait plus très bien où on en est. Ça, voilà. Bien sûr. Eh bien, je dis, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que cette lame de fond qu'elles évitent soigneusement, dans leur recherche de la perfection, eh bien, c'est précisément celle de Dieu, de ce Dieu qu'elle cherche parfois avec une telle ardeur et à travers peut-être les grandes austérités de saint Antoine. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais sans gîte et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. On peut interpréter ces paroles d'une manière activiste, c'est-à-dire d'une manière matérielle, et en faire un abus. Mais ça consiste à les détourner de leur sens profond, n'est-ce pas? Ça consiste à se mettre à faire du bien au lieu d'aimer. Voilà. C'est tout. Et aimer, ben, qu'est-ce que vous voulez? Aimer, c'est aimer, c'est se laisser chavirer à tout jamais par le spectacle de ses détresses. Je vous avoue que quand j'entends présenter le christianisme dans une perspective conquérante, optimiste, et tout ça, je pense à petite histoire comme celle d'une petite Odile qui est morte à 3 ans après avoir été martyrisée par sa mère. Et là, je dis, ben voilà, quand on lit une histoire comme ça, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui passe pas, passe plus, qu'on puisse plus s'en remettre tout à fait. Et surtout quand on sait que c'est ce soir même, en ce moment, quoi, quelque part, ça continue. Alors, évidemment, si on se met à penser à ça, on ne peut plus vivre. Eh bien d'accord, voilà, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre comme avant, en se centrant sur soi-même. On perd pied. Et c'est cela qui précisément nous fait basculer petit à petit dans l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui nous fait faire l'apprentissage de la miséricorde. Ne plus avoir de pierre où reposer sa tête, ni matériellement, ni surtout moralement et intellectuellement. Et alors le grand pas que je vous demanderai de faire, parce que se laisser chavirer, c'est toute une histoire, hein. Je m'en charge pas, c'est tout Saint-Esprit. Mais ce que je peux vous aider et vous demander peut-être de faire, c'est de reconnaître par loyauté que l'amour va jusque-là ou qu'il n'est rien. Et que l'amour nous crie comme saint Paul, vous êtes sages dans le Christ, mais moi je suis fou dans le Christ. Eh bien, reconnaître que ça en effet c'est le génie de l'amour, c'est déjà un grand progrès. Accepter de regarder cette lumière et cette folie comme étant la sagesse inévitable et inexorable de l'amour. Et qu'en dehors de cette folie, eh bien nous sommes en dehors de l'amour, puis c'est tout. Voilà. Donc vous voyez que l'amour, c'est pas drôle, c'est beaucoup mieux que drôle. Beaucoup mieux, mais c'est pas drôle. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous devez pressentir, justement, et que vous pressentirez d'autant mieux que vous vous serez mis en face de cette vérité, c'est que de cette folie qui est la loi, eh bien nous sommes foncièrement incapables. Nous sommes incapables de cette folie. Et que ce n'est pas normal, parce que c'est la loi, et que cet élan répond à la spontanéité la plus profonde de notre cœur, tel qu'il est sorti des mains de Dieu. Et alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez vous rendre compte que vous en êtes incapable, que nous en sommes incapables, eh bien, essayez. Voyez. Et alors ça, je reconnais que c'est un avantage de la vie religieuse. Bon, y a au moins celui-là qui est à peu près garanti, quoi. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, en condition d'être pris d'une manière un peu honnête, cette recherche de la perfection chrétienne, si naïve soit-elle, nous aide à découvrir très rapidement notre incapacité d'aimer. Un des motifs pour lesquels on ne s'en aperçoit pas, c'est justement qu'on n'essaie pas sérieusement de s'y mettre. Alors, n'essayant pas sérieusement, on se dit, oh ben quoi, je suis peut-être pas si mauvais que ça. Alors, essayez. Et vous verrez. Alors, permettez-moi de classer les chrétiens en 3 catégories. C'est pas absolu, hein, les classements, faut pas trop y croire, mais enfin, en gros. Nous trouvons d'abord ceux qui croient aimer à bon compte. On appellerons, si vous voulez, sans vouloir les condamner, un peu pharisiens, quoi. Bon, cette catégorie-là, nous n'insisterons pas. J'insisterai davantage sur la deuxième, ceux qui commencent à soupçonner la vérité, qui commencent à soupçonner que c'est pas facile, mais qui espèrent y arriver à force de générosité, de renoncement, de sacrifice. Et ça, ce sont les apprentis de la vie religieuse. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très bon de faire ça. N'est-ce pas? Espérer y arriver à force de se dire, ah ben j'ai la règle, j'ai les occasions de la charité fraternelle, j'ai les mortifications, j'ai tout ça, je vais y arriver, n'est-ce pas? Bon, j'étais comme ça, je le suis encore. Enfin, je souhaite d'ailleurs l'être encore. C'est le signe au moins que je suis au moins parmi les débutants. Car ce sont les débutants, ça. C'est-à-dire des pélagiens. Des gens qui ne se rendent pas compte à quel point nous ne pouvons rien faire sans la grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, les pélagiens, ou du semi-pélagien, je n'entre pas là-dedans, rendez-vous en théologie, des pélagiens qui pensent pas qu'ils vont tout faire, mais qui pensent qu'ils vont faire quelque chose, quoi, à force d'essayer. Eh bien, ils sont très excusables à condition de ne pas persévérer trop longtemps dans leur illusion. Et enfin, troisième catégorie, ceux qui, à force d'essayer en vain, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne feront pas quelques progrès. Oh, l'amélioration de la race humaine, ça, hein, d'accord pour l'amélioration de la race humaine, mais attention, ce que vous disiez hier, il ne s'agit pas d'une amélioration, il s'agit d'un rachat, c'est-à-dire d'une transformation totale, d'un retournement radical. Eh bien, si vous essayez d'atteindre en vous cette région qui résiste, qui ne veut pas se donner, si vous essayez vraiment de la donner, je dis, vous essayerez en vain. Mais il faut essayer. Mais pourquoi faut essayer? Pourquoi faut essayer si c'est en vain? Ah, ben justement. Parce que si vous essayez en vain, vous arriverez tout de même, vos efforts auront quand même un fruit infiniment précieux qui ne sera pas d'y arriver. Ah, ça, non. Soit. Mais ça vous permettra d'entrevoir jusqu'où va l'amour et de reconnaître que vous en êtes foncièrement incapable. Alors, ben vous êtes au départ pour la course et vous entendrez la cloche qui vous annonce la grande vérité que je vous ai rabâchée ces soirs-ci, mais que je rabâche encore ce soir. Aux hommes, c'est impossible. Mais pas à Dieu. Car à Dieu, tout est possible, même de faire de vous des êtres qui aiment, et alors, au refrain, je vous enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Alors, nous abordons le troisième point. Tout cela, tout ce que je viens de vous dire là, c'est d'une certaine manière un résumé plus strict, plus doctrinal, plus précis de tout ce que j'ai suggéré depuis deux ou trois séances. Maintenant, nous arrivons à pied d'œuvre, c'est-à-dire que nous arrivons à pressentir que sans la grâce, nous ne pouvons rien. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Voilà. Alors, je ne pourrai pas tout vous dire ce soir. Le principal, je le réserve pour demain. Je vais essayer seulement d'écarter la plus dangereuse de toutes les erreurs que vous pourriez commettre à ce sujet. Et la plus dangereuse et la plus tentante, enfin celle qui risque. Si je vous demandais spontanément comme ça, si nous étions dans un cercle thomiste, et non pas dans une retraite, je me demande qu'est-ce que c'est que la grâce, je pense que beaucoup d'entre vous seraient tentés de me répondre, eh bien c'est un secours qui nous est donné par Dieu pour accomplir, pour aimer en somme, pour accomplir la loi, c'est-à-dire pour aimer, puisque vous nous avez dit que la loi se résume dans le commandement de l'amour, ce qui est très vrai. Quelques-uns pourraient peut-être aller plus loin, plus profond encore dans leur réponse en disant c'est une guérison. Notre nature est courbée, repliée sur elle-même, et bien Dieu la déplie. Comme on déplie et comme on, une vieille peau, comme on l'étale au soleil pour lui rendre sa fraîcheur. Dieu nous déploie. La grâce, c'est Dieu qui déploie notre cœur de façon à ce qu'il redevienne un cœur d'enfant. Et ce serait déjà assez profond de dire cela. Mais ce serait quand même passer entièrement en dessous du mystère de la grâce. Ce qui nous renforce dans cette illusion, c'est vrai, ça, la grâce est tout cela, mais elle est bien autre chose. Et ce qui nous renforce dans cette illusion que la grâce n'est que cela, et dans cette espèce de blasphème, je vous le montrerai, qui consiste à vouloir la réduire à n'être que cela, c'est nos études secondaires. Nous avons tous plus ou moins étudié Pascal. Alors on a étudié la grâce, et on a été initié aux disputes sur la grâce entre les jansénistes et les thomistes et les jésuites. Alors, or cette dispute sur la grâce a un nom dans l'histoire des doctrines dans l'Église. C'est la dispute de auxilis, non pas de gratia, mais de auxilis, ce qui veut dire la dispute au sujet des secours. Vous voyez ? Alors forcément, pour nous, grâce, secours, ça s'est pratiquement identifié. Mais la grâce est tout autre chose. Alors, pour évoquer ce que c'est, mais il faudrait que je fasse appel une fois de plus à mon ami Lewis. Je n'ai pas le livre ici, mais enfin, je le dirai ce dont je m'en souviens par cœur. J'ai dû le lire, mais plutôt au Sertomiste, pas au cours de cette retraite, de ce qu'il raconte quand il était enfant, qu'il avait mal aux dents. Eh bien, il hésitait beaucoup avant de demander à sa mère un cachet d'aspirine, parce qu'elle lui donnait le cachet d'aspirine, certainement, mais le lendemain, on allait chez le dentiste. Alors lui, il aurait bien voulu limiter les secours. Vous voyez, qu'on lui apportait au cachet d'aspirine. N'est-ce pas ? Et vous voyez, déjà, son mouvement était le mouvement fondamental, leur attitude fondamentale envers le Christ et envers Dieu, nous offrant Dieu Sauveur, je n'en demande pas tant. Voilà. Vous comprenez ? Et alors, si vous vous rappelez ce que nous avons lu hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'il ne s'agit pas de réparer le cheval mais de lui donner des ailes, ben, nous amenons notre machine impossible, comme il le dit encore Lewis, nous avons une machine impossible à conduire, nous l'amenons au garagiste, au réparateur, et nous disons, ben, arrangez-moi ça, ayez pitié de... Pitié, mon Dieu, prends pitié, n'est-ce pas ? Seigneur, prends pitié, arrange ma machine. Eh bien, oui, mais c'est très bien, dit Dieu, je vais arranger la machine, et puis alors, tiens, on va enlever ça par là, puis alors on va remettre, ça va être fantastique, une machine, elle va voler. Ah non, mais j'en demande pas tant, c'est pas la peine. Voyez-vous ? Voilà. Or, la grâce, c'est justement Dieu lui-même qui se donne. Mais c'est autre chose. Alors, vous vous rendez compte de la tête qu'on ferait si à chaque fois qu'on avait trouvé un mécanicien pour changer une roue de secours, je sais pas quoi, je vous donne ma vie. Non, je vous en demande pas tant, non, ça, c'est pas ça du tout, non, arrangez la petite affaire, là. Alors non, il vous dit, c'est tout ou rien, je vous donne tout ou rien. Je me mets à votre service pour toujours, et on fait notre vie ensemble, ou alors moi je m'occupe pas de vous. Voilà Dieu. Voilà, c'est embêtant. Hein. C'est ça le mystère de la grâce. Non, je ne vous améliorerai pas. Je vous racheterai. On va tout reprendre à zéro. Et je ne vais pas me contenter de vous guérir. Je vais vous... Alors, vous quoi ? Ben, on verra mieux demain. Enfin, vous brûler, vous diviniser, vous... faire de vous des planètes intrastellaires, enfin vous voyez, qui se promènent dans le vide interplanétaire. Et la vérité, c'est que jamais, à notre connaissance, en ce qui concerne nous, fils de nos premiers parents, et en ce qui concerne les anges aussi, dont il est pas mal question dans l'Ancien Testament, jamais Dieu n'a proposé à notre race et aux anges un destin purement naturel. Par conséquent, il ne s'est pas contenté, et c'est ça qu'il faudra que nous regardions en face demain, il ne s'est pas contenté de nous offrir cette splendeur extraordinaire qui s'appelle un cœur innocent, un cœur immaculé qui, dans la jeunesse de sa joie, s'offre au Créateur comme un enfant. Il ne s'est pas contenté de nous donner ça. Il ne s'est jamais contenté de nous donner ça. Ça ne lui a pas suffi. Ce qu'il nous a donné, c'est tout autre chose. Et si nous sommes venus des machines détraquées comme nous le sommes, c'est parce que nous avons refusé, nos premiers parents ont refusé à un moment donné cette autre chose. Ou ils ne l'ont pas accueilli comme il fallait, ce qui revient au même. Alors Dieu ne va pas, vous comprenez, guérir les effets secondaires de la catastrophe sans réparer ce qui est à ses yeux le pire de la catastrophe, c'est-à-dire que nous avons perdu l'intimité que nous avions avec lui. Et ce que j'essaierai de vous expliquer demain, c'est par là que nous commencerons, c'est que cette intimité, c'est quelque chose qui évidemment se situe dans le prolongement de l'amour de Dieu par-dessus toute chose, mais qui va beaucoup plus loin encore. Alors, on peut se demander, à première vue, comment est-ce possible ? Eh bien, justement, on essaiera de le comprendre. Et alors, c'est là qu'on pourra pressentir les fondements théologiques stricts de ces paroles des saints, et Thérèse de l'Enfant Jésus, entre autres, « Seigneur, vous êtes fou. » Incontestablement, si ce n'était pas Dieu qui faisait ces choses-là, ce serait strictement notre devoir de le remercier, enfin, vous voyez. De lui dire, écoutez, laissez votre adresse. On vous écrira. Hein. Plus tard, quand on aura vendu nos bœufs, négocié notre champ, marié nos filles, enfin, tout ça, on vous écrira. Mais c'est Dieu. Alors, si fou que ça paraisse, eh bien, il faut prendre ça très au sérieux comme la sagesse des sagesses. Alors, demandons une fois de plus à la Vierge très prudente de nous apprendre cette folie. Je vous rappelle en terminant que je vous encourage à faire quelques instants, prier quelques instants à la chapelle avant de partir, et surtout, pour ceux qui ne seraient jamais venus, à respecter le silence de ceux qui vont prier.